Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François se repose à l'approche de son important voyage en Terre Sainte, un voyage qui suscite, vous allez l'entendre, beaucoup d'espoir, notamment au plan œcuménique, mais aussi quelques déceptions et controverses. La défense d'une jeune chrétienne soudanaise condamnée à mort fera appel. Elle se dit prête, s'il le faut, à s'adresser à la Cour constitutionnelle, alors que cette affaire continue de susciter des réactions horrifiées. La jeune femme enceinte est actuellement détenue avec son fils de 20 mois. Des militaires des quatre coins du monde à Lourdes, 12 000 pèlerins participeront pendant 3 jours aux différentes activités proposées sur le thème de la paix. Vous entendrez l'évêque aux armées françaises, Monseigneur Luc Ravel. Enrhumé, le pape François a reporté ce jeudi les rendez-vous inscrits à son agenda. Des audiences privées avec certains collaborateurs et avec des évêques du Mexique en visite ad limina. Il a cependant célébré en tout début de journée sa messe quotidienne à la maison Sainte-Marthe en présence de quelques fidèles. Jeudi, le Vatican avait annoncé que le Saint-Père renonçait à se rendre dimanche au sanctuaire romain du Divin Amour en vue d'alléger son emploi du temps avant son voyage en Terre Sainte du 24 au 26 mai. Un voyage en 3 étapes, Amman, Bethléem et Jérusalem, dont le temps fort sera la rencontre avec le patriarche de Constantinople et l'office œcuménique au Saint-Sépulcre, 50 ans après les retrouvailles historiques entre Paul VI et le patriarche Athénagoras. Autre rendez-vous important, la rencontre en Jordanie avec des réfugiés syriens, irakiens et palestiniens et la messe célébrée avec les ordinaires de Terre Sainte au Cénacle, un site controversé. Le père David Neuhaus fait partie du comité d'organisation du voyage papal. Vicaire patriarcal pour la communauté catholique d'expression hébraïque, il nous parle de ses attentes, de l'importance de relancer le dialogue œcuménique, mais aussi du climat d'insatisfaction que suscite la brièveté de cette visite et l'exclusion de la Galilée.
Comme pour toutes les visites, j'imagine, tout se passe dans une activité très très intense. Là, on essaye de faire millions de choses à la même fois et de montrer notre enthousiasme, notre joie qu'il vient, mais aussi de planifier tout bien, que tout sera comme lui le voudrait.
L'on sait que ce voyage est très bref. Est-ce que toutes les communautés seront satisfaites? Et je pense aussi aux communautés juives, bien sûr, et musulmanes.
Je peux dire 2 choses en réponse à cette question. Pour le moment, il n'y a personne qui est satisfait. Je suis sûr, et cela, je dis avec l'expérience des autres visites des Saint-Père dans le passé, qu'après, tout le monde sera très content. Tout le monde n'est pas content pour le moment parce que la visite est brève, la visite ne prend pas en compte suffisamment les chrétiens qui sont les nombres les plus grands, sont au nord du pays, en Israël, et le Saint-Père ne va pas en Galilée, il ne va pas rendre visite à ces chrétiens là-bas. Bien sûr, ils sont invités à venir à Bethléem. Les possibilités à Bethléem sont très limitées pour la messe qu'il va célébrer dans la place de la Nativité. Et pour cela, moi, je reçois tous les jours, et j'imagine il y a beaucoup d'autres qui reçoivent le même type d'appel téléphonique, « Mais mon père, vous ne comprenez pas, il n'y a pas suffisamment de place, tout le monde veut venir saluer le pape. » Nous sommes dans ce moment actuellement, avec l'intention de dire à tout le monde de participer avec tout leur cœur, même si ce n'est pas possible qu'ils voient physiquement le pape, qu'ils soient physiquement présents quand il est là. Mais je suis sûr que le pape va apporter avec lui sa joie, son optimisme. Il est apôtre de l'espoir. Et en cela, après la visite, je suis absolument sûr que tout le monde sera ravi. Mais pour le moment, beaucoup de travail et un peu de déception parce qu'on commence à découvrir qui peut être là et qui ne peut pas être là physiquement.
Ce sera pareil, à votre avis, pour les responsables israéliens et les responsables musulmans qu'il va rencontrer de manière rapide, mais peut-être en posant des actes pleins de sens et très symboliques?
Le dialogue interreligieux, hein, ce côté-là de la visite, sera comme a fait le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II et pape Benoît. Et il y aura des moments partagés avec les musulmans, avec les juifs. Je pense qu'ils attendent le pape parce qu'ils savent que le pape est également amis du peuple juif comme du peuple palestinien et le peuple arabe en général. Le pape est un homme d'écoute et de dialogue. Et pour cela, ses partenaires dans ce dialogue interreligieux attendent avec enthousiasme. Mais il faut dire que le pape lui-même a souligné le fait que cette visite se focalisera sur les relations œcuméniques en donnant un signe très fort du devoir de notre unité en tant que chrétiens, un message très important pour nous actuellement au Proche-Orient. L'unité des chrétiens, l'unité de notre témoignage et l'authenticité de notre témoignage est basée sur notre unité.
Au-delà de tout ce que vous m'avez dit, est-ce que vous avez une espérance, un espoir secret par rapport à cette visite et que vous voudriez bien nous partager?
J'espère, et cela je pense n'est pas uniquement mon espoir à moi, que le pape, comme il a déjà surpris le monde, il a surpris Rome, il met des surprises partout, qu'il va nous surprendre. Nous avons besoin qu'il ouvre notre imaginaire. Notre imaginaire est un peu figé par les circonstances dans lesquelles nous vivons, des circonstances qui ne sont pas toujours très faciles, beaucoup de diffusion, beaucoup d'animosité. J'espère que le pape puisse, avec sa joie, nous surprendre par son message.
Le père David Neuhaus, du patriarcat latin de Jérusalem, vicaire pour la communauté catholique d'expression hébraïque, interrogé par Bernard de Cotigny. Et ce vendredi, le Hezbollah libanais a mis en garde le patriarche maronite sur les répercussions négatives de sa décision controversée d'accompagner le pape François à Jérusalem à la fin du mois. Le chef du conseil politique de la formation chiite s'est exprimé après une rencontre avec le patriarche Béchar Haraï, premier patriarche maronite à se rendre à Jérusalem depuis son occupation par Israël en 1967. Techniquement, le Liban est en guerre avec son voisin et interdit à ses ressortissants de se rendre en Israël. Le cardinal Haraï a défendu sa décision en déclarant qu'il s'agissait d'une affaire purement religieuse. Quelques 10 000 maronites vivent en Terre Sainte. L'affaire d'une jeune chrétienne soudanaise condamnée à mort a soulevé une vague d'indignation dans le monde. Myriam Yahya Ibrahimi Chak, 27 ans, enceinte de 8 mois, sera pendue. La sentence a été confirmée jeudi par un tribunal qui l'a jugée coupable d'apostasie et d'adultère pour avoir épousé un sud-soudanais chrétien. Jusqu'au moment où ce magazine était enregistré, les initiatives diplomatiques et les protestations des militants des droits de l'homme n'avaient pas obtenu de résultats. Manuela Afigi.
Au cours de l'audience, un chef religieux musulman a essayé de lui faire abjurer sa foi, mais en vain. La jeune femme est fille d'une Éthiopienne orthodoxe abandonnée par son mari musulman soudanais. Elle a donc été élevée en tant que chrétienne orthodoxe, mais en vertu de la charia, elle est musulmane puisque son père est musulman. Au Soudan, la constitution adoptée en 2005 reconnaît la liberté de religion. Le tribunal s'est basé sur la charia, en vigueur depuis 1983 dans le pays. La loi islamique punit l'apostasie par la peine capitale et interdit à une musulmane d'épouser un non-musulman. Si les peines de flagellation sont souvent exécutées au Soudan, la peine de mort l'est rarement. Aucune femme enceinte n'a jamais été exécutée. Selon la Maison-Blanche, des violations systématiques, flagrantes et continues de la liberté de religion sont commises au Soudan. Depuis fin 2012, les actes répressifs contre les minorités religieuses ont augmenté. Expulsions, confiscations et destruction de propriétés de l'Église. Il y a quelques jours, les autorités soudanaises ont décidé de fermer une école primaire des religieux comboniens qui accueille 470 élèves, alors que les écoles publiques sont surpeuplées et que leur niveau est très bas. Malgré la promesse du gouvernement soudanais d'accorder une certaine forme de liberté religieuse à sa minorité chrétienne, les représentants des différentes églises de ce pays d'Afrique témoignent tous d'une hostilité grandissante à l'encontre de leur communauté dans la foulée de l'indépendance du Soudan du Sud.
Et au Maroc, plus d'un millier d'adeptes d'une importante confrérie soufie venue d'une cinquantaine de pays se sont réunis à Fès pour marquer le bicentenaire du décès de leur fondateur et promouvoir un islam tolérant. Un évêque martyr roumain d'origine autrichienne, mort en prison en 1951 sous le régime communiste, sera béatifié ce samedi. Monseigneur Antoine Durkovici, grande figure de l'Église du silence, multipliait les œuvres d'apostolat en dépit des persécutions antichrétiennes. Il fut arrêté en 1949 alors qu'il voyageait dans un tram et jeté dans un cachot infesté de rats, privé de vêtements et de nourriture et dans un isolement total, gisant dans la saleté et les excréments. En Roumanie, sous le régime communiste, plusieurs évêques, des moines et des prêtres héroïques ont été arrêtés par la police secrète et de nombreux laïcs ont été emprisonnés dans des camps de travail. pour la 56e année consécutive, le pèlerinage militaire international a débuté ce vendredi à Lourdes. Cette année, le thème est « Serviteur du Christ, serviteur de la paix », un thème qui fait écho aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre et à l'axe traditionnel de la paix entre les nations, cher aux pays organisateurs du pèlerinage. Participer à la construction de la paix entre les nations, c'est l'enjeu majeur de ce pèlerinage depuis sa création en 1958. Un objectif plus qu'essentiel dans le contexte actuel où se multiplient les conflits, comme l'explique Mgr Luc Ravel, évêque aux armées françaises.
En France et en Europe occidentale, nous étions un petit peu hors conflit. Et puis depuis 10 ans, 15 ans, avec l'ex-Yougoslavie en particulier, et aujourd'hui nos conflits en Afrique, en Afghanistan et autres, en Irak, nous nous apercevons que le monde est terriblement instable et que plus que jamais, nous avons à le regarder comme étant une source potentielle de violence et de conflits qui se disent sous le mode de la guerre, ou des conflits qui ne se disent pas et qui font des milliers de morts, comme par exemple aujourd'hui au Sud-Soudan. Donc, en dehors même de ce que les médias nous révèlent, nous devons et nous avons à savoir et à rejoindre la révélation biblique sur le fait que le cœur de l'homme est violent, il est compliqué, il est tordu, et que seul ce lien renouvelé dans la prière avec Dieu permet déjà, avant même d'être sauvé dans le Christ, d'être protégé de la force, de la sottise et de la violence humaine. Il est terriblement important, alors que nos pays qui sont aujourd'hui fédérés, je pense à l'OTAN ou à l'ONU, ont besoin de réfléchir et peut-être de poser des décisions rapides concernant certains conflits qui nous touchent très près. Je pense qu'on a vraiment besoin de puiser dans la prière d'autres ressources que celles de nos réflexions et de notre diplomatie.
En quoi ensuite ce pèlerinage est donc essentiel pour les militaires ?
Pour nous autres militaires, souvent présentés comme des hommes de guerre, entraînés à la guerre, nous avons besoin que l'on nous rappelle que nous sommes, selon l'heureuse expression de Saint Jean-Paul II, des sentinelles de la paix. C'est-à-dire, nous sommes des serviteurs de la paix. Et le thème de ce 56e pèlerinage militaire, c'est « Serviteur du Christ, serviteur de la paix ». Ce n'est pas simplement une exhortation pour des hommes qui sont naturellement des hommes de paix, je pense aux hommes religieux, mais c'est une invitation à se rappeler ce que nous sommes. Le militaire, il est chargé de veiller sur elle pour que cette paix ne soit pas rompue, et si elle l'est, eh bien, il doit faire tout ce qu'il peut pour la guetter, la préparer et permettre qu'elle vienne. Nous savons, nous autres militaires, que la paix n'est pas au bout du fusil. C'est-à-dire que après le conflit, ou même déjà au cœur d'un conflit, il faut des appels à la fraternité, il faut des appels diplomatiques, il faut des appels au bon sens. Mais enfin, il peut arriver qu'il y ait nécessité d'intervenir pour cette responsabilité de protéger qui aujourd'hui fait partie de la doctrine sociale de l'Église, et donc d'intervenir au cœur d'une violence déjà déclarée pour l'empêcher d'être contagieuse, de se propager et de faire des centaines de milliers de morts. Donc il est très important que le militaire, qui doit parfois prendre le moyen de la guerre, se trouve comme recentré, remis devant la grande dynamique qui est totalement chrétienne et devant la grande béatitude des militaires qui est « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».
L'évêque aux armées françaises, Mgr Luc Ravel, interrogé par Audrey Radondi. Une grande procession commémorera ce samedi à Paris les 800 ans de la naissance de Louis IX, mieux connu sous le nom de Saint-Louis. En présence du duc d'Anjou et d'autres descendants du 44e roi de France, la procession partira de l'église Saint-Eugène dans le 9e arrondissement et rejoindra Notre-Dame de Paris. Une ostension des reliques de la Passion et de celle de Saint-Louis se tiendra ensuite dans la cathédrale. L'initiative est organisée par l'association RIFLAM qui encourage l'expression de la culture et des racines chrétiennes dans l'Hexagone. Dans un communiqué, l'association indique que cette procession s'adresse à un large public. Expression de la foi chrétienne, elle est ouverte à toutes les personnes attachées à leur patrimoine historique et spirituel dans un esprit de ferveur et de rassemblement. Le Conseil des conférences épiscopales d'Europe organise jusqu'à dimanche une réunion des responsables nationaux pour la pastorale de l'école sur le thème de la formation chrétienne et de l'accompagnement spirituel des enseignants catholiques. Le lieu de la réunion, Sarajevo en Bosnie, se veut un symbole de la mission spécifique des établissements catholiques dans la construction de la paix en Europe. Dans un contexte de crise d'identité vécue par certaines institutions catholiques, cette rencontre est l'occasion de confronter les expériences vécues dans les différents pays d'Europe. Rapport à la sécularisation, place des autres religions, religion et des jeunes non chrétiens dans les structures catholiques, rapport au pouvoir public. Monseigneur Éric Aumônier, l'évêque de Versailles, est aussi le président de la section école au sein de la CCEE. Depuis Sarajevo, il insiste sur l'importance d'une continuité dans l'initiation chrétienne des jeunes, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, au service d'une culture de la paix.
La pédagogie de la foi doit s'adapter aux âges. Et en même temps, ce qui est beau, c'est qu'il puisse y avoir une continuité, que des jeunes scolaires puissent être suivis dans la fidélité. La question de la pastorale universitaire est particulièrement importante parce que c'est au moment du passage à l'université, pendant ce moment-là, que les jeunes vraiment bougent et changent de pays. Leur foi rencontre d'autres convictions religieuses et donc ils ont d'autant plus besoin à ce moment-là d'un approfondissement et d'une réflexion profonde sur la foi.
Au sein même des établissements catholiques, on sent parfois que certains enseignants n'ont pas vraiment de sensibilité chrétienne et parfois même dénigrent l'Église. Est-ce que la question d'un recrutement plus strict, qui tiendrait compte explicitement de la dimension spirituelle, se pose dans l'enseignement catholique ?
Bien sûr, la question est posée là. En même temps, il faut considérer que si un chef d'établissement est profondément motivé, s'il a la capacité aussi d'entraîner une équipe éducative, c'est évidemment un facteur tout à fait important sur lequel il est bon de veiller chaque fois qu'on le peut.
Est-ce que la perte du label catholique pourrait s'appliquer à des établissements qui s'écartent de cette dimension d'évangélisation ?
Jusqu'ici, on n'a pas posé la question en ces termes, mais c'est vrai que l'enjeu, c'est l'évangélisation et la capacité que la foi soit et annoncée et vécue. Et donc, si à l'intérieur d'un établissement, il peut y avoir un témoignage de la foi qui est rendu à l'intérieur de l'école, c'est remarquable. Et c'est ça que nous cherchons à avoir, ce qui n'est pas toujours facile, mais en même temps, je crois qu'il faut et savoir au nom de qui et quelle est la source de notre acte éducatif, et en même temps une grande compétence aussi dans la matière qu'on enseigne. Donc il y a tous ces éléments-là dont il faut tenir compte.
Et à l'échelle européenne, est-ce que les établissements catholiques bénéficient d'une visibilité, d'une reconnaissance suffisante, notamment auprès des pouvoirs publics, pour assumer leur mission dans de bonnes conditions ?
Je pense qu'il y a un gros travail à faire en ce sens. On est certainement dans des situations très différentes. Je pense que les pays de l'Est de l'Europe ont beaucoup à apprendre aux pays de l'Ouest. Eux sont habitués depuis plus longtemps à une sorte de mixage et de rencontre de jeunes de pays et de cultures extrêmement différentes. Pour nous, en Europe de l'Ouest, on est moins habitués et on est en train de chercher à comprendre comment améliorer et comment être davantage nous-mêmes tout en étant à la fois accueillants et respectueux. Et il y a là un défi fort important. Et de ce point de vue-là, se retrouver à Sarajevo n'est pas sans signification. On est au cœur de l'Europe, dans un lieu qui a souffert et qui souffre, et où nous avons tous à prendre la mesure de cette responsabilité pour la paix.
Monseigneur Éric Aumônier, évêque de Versailles et président de la section école au sein du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, interrogé par Cyprien Viette. Le synode des évêques sur la famille approche et les préparatifs de cette assemblée générale extraordinaire se poursuivent. Le conseil ordinaire qui en est chargé s'est réuni pour la 6e fois les 13 et 14 mai à Rome pour analyser la première ébauche du document de travail, l'Instrumentum Laboris. Les travaux ont par ailleurs permis de mettre au point la nouvelle méthodologie synodale qui sera suivie pendant cette 3e assemblée générale extraordinaire qui se tiendra, je vous le rappelle, en octobre prochain. Il y a quelques mois, le Vatican avait fait parvenir à tous les épiscopats des questionnaires préparatoires intitulés « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation ». Des synthèses des réponses ont été publiées dans plusieurs pays. Ainsi, parmi les grandes questions qui préoccupent les familles françaises figurent le mariage, le divorce, la sexualité et la contraception. La nécessité de renforcer la préparation au mariage est également soulignée. Je vous signale avant de terminer qu'une structure composée de 4 pylônes qui assurait la diffusion en ondes moyennes des programmes de Radio Vatican vers l'Europe a été démantelée ces jours derniers au centre émetteur de Radio Vatican à Santa Maria di Galleria à 25 km de Rome. Il s'agissait d'un mât puissant de plus de 90 mètres de haut, surnommé les 4 tours. Son démantèlement était prévu depuis longtemps. Par ailleurs, depuis 2012, les émissions en ondes courtes de Radio Vatican ont été réduites de 50%. Et d'autres réductions sont à prévoir. Mais si les technologies changent, la mission de Radio Vatican reste la même, la communication au service de l'Église. Pour plus de détails, retrouvez-nous sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican. En français, merci de nous avoir suivis et bonne fin de semaine à tous.